Étincelle, le lab philo de la pensée juive. Une émission animée par Pierre Abraham.
Bonjour les philosophes. Faut-il vouloir séparer politique et religion ? Depuis le 7 octobre, de nombreuses synagogues ne cessent de se faire l'écho des revendications politiques d'Israël. On le comprend en raison de la solidarité du Ham Israël, du peuple d'Israël. Cependant, la laïcité nous contraint à penser, nous, juifs de France, cette séparation comme un moyen de la liberté politique dans une société plurielle avec des citoyens émancipés de tous les jougs, sauf de celui de la loi civile. La forme juive de la relation entre peuple, État et religion réclame-t-elle de rapprocher la religion de l'État ou faut-il penser une certaine distance, une certaine altérité prudente entre la religion et la politique. Pour réfléchir sur cette question qui concerne Israël, mais aussi le monde chrétien ou le monde musulman, nous allons faire un pas de côté à l'occasion d'un livre publié sous la direction de Jean-Noël Dumont et de Vincent Aubin, intitulé « Adieu à César », publié aux éditions Peuple Libre en 2025. Ce sera pour nous l'occasion de réfléchir à des principes véritablement universalisables et pas seulement sur des principes spécifiquement juifs ou spécifiquement chrétiens. Et nous avons le privilège de recevoir Jean-Noël Dumont. Jean-Noël Dumont, bonjour.
Bonjour.
Jean-Noël Dumont, vous êtes agrégé de philosophie et fondateur du Collège supérieur de Lyon. Alors pour réfléchir sur cette question de la relation entre religion et politique, commençons par sortir de faux problèmes. Vous donnez un exemple que je trouve merveilleux. Si un rabbin ou un prêtre fait un excès de vitesse, le gendarme le verbalisera. C'est-à-dire qu'il assurera une forme de supériorité du politique sur le religieux et il le verbalisera quelle que soit son appartenance religieuse. Et inversement, si ce même gendarme ne respecte pas la loi religieuse, il sera corrigé par le représentant religieux. Cela exprime concrètement que la question de la relation entre l'État et la religion n'est pas unidirectionnelle et qu'il faut se garder d'un regard simpliste concernant une hiérarchie exclusive. Pouvez-vous commencer notre réflexion en commentant cela?
Merci d'abord de m'accueillir. Alors je traiterai la question, vous avez introduit la question dans un contexte juif, moi je la traiterai en chrétien par la culture qui est la mienne. Les exemples que vous donnez montrent une compétition ou une distinction entre, disons une distinction entre deux régimes de loi, un qu'on appellerait politique et qui s'adresserait à tous et un qu'on appellerait religieux et qui ne s'adressait que aux croyants qui adhèrent à cette foi. Vos exemples montrent que, en fait, il n'est pas possible d'imposer par l'intermédiaire du politique une loi religieuse. Et tous les travaux qui correspondent à ce que nous avons fait dans ces ateliers autour de « Adieu à César » reviennent à cela, de dire dès que un croyant veut recourir aux moyens du politique pour gagner du terrain, pour gagner une reconnaissance, et il fait un faux pas, parce que la religion est porteuse par elle-même de l'appel à la liberté souveraine de la conscience, et que on ne peut pas utiliser les leviers du pouvoir politique pour arraisonner ses consciences.
Et réciproquement, la politique ne peut pas arraisonner la religion pour renforcer ses propres orientations.
Et réciproquement, c'est la raison pour laquelle nous avons la chance de vivre en Occident sous des régimes politiques fragiles qui ont émancipé ou qui essayent d'émanciper la dimension religieuse de ces prérogatives politiques. Et cela, les juifs comme les chrétiens le connaissent, mais pas sans ambiguïté. Parce que lorsque le politique définit le religieux, Je reviendrai peut-être sur le fait, d'ailleurs, de cette définition du religieux. Et lorsqu'il circonscrit ce religieux, en même temps, il lui dénie tout engagement politique. Je reprendrai, puisque nous sommes dans une radio juive, le propos de Clermont-Tonnerre dans son célèbre discours à la Révolution, où que l'on présente comme un discours d'émancipation des Juifs. C'est vrai, c'est un discours d'émancipation des Juifs. Toutefois, il dit, on refusera tout aux Juifs comme nation et on leur accordera tout comme individu. C'est-à-dire que le politique... au fond, exige du citoyen qu'il renonce à ses solidarités, qu'il renonce à ses appartenances une fois qu'il est rentré dans l'isoloir.
Est-ce vraiment une émancipation, finalement, de couper les liens naturels ?
Ben, c'est une question. Regardez, je prends un exemple. L'enfant qui rentre à l'école, souvent... on fait comme s'il était sommé de déposer au porte-manteau ses solidarités religieuses, familiales, etc. Peut-il accepter cet abandon ? Peut-il accepter, au fond, ce qui est à ses yeux, une certaine forme de trahison ? Et donc, c'est une violence aussi de traiter la religion comme un phénomène individuel, de pure conscience, une opinion, après tout. Alors que la réalité religieuse est toujours celle d'une communion. Communion, j'utilise un terme chrétien, mais disons d'une communauté. Et le modèle de la communauté est un modèle beaucoup plus puissant et beaucoup plus capable de façonner la personne que celui de la seule société politique.
Et qui serait, la communauté est une réalité plus vivante qu'au fond la simple organisation institutionnelle qui a quelque chose d'abstrait. En ce sens-là, peut-être que pour bien penser cette question du théologique et du religieux, du rapport, pardon, du religieux et du politique, il faut se garder de penser que la sécularisation et l'idéal ou l'idée même de l'émancipation de l'individu par l'État tel que le projet de la modernité le porte, il faut se garder de penser que ce projet aurait véritablement réussi. Hein, on pense cette formule très classique de Carl Schmitt, selon laquelle la politique moderne est une religion sécularisée. C'est finalement comme s'il y avait eu un refoulement qui revenait. Qu'en pensez-vous ?
Alors, il est vrai que il y a une rivalité mimétique entre le politique et le religieux, et que on voit souvent le politique se revêtir des oripeaux du religieux, instaurer des cérémonies, des hymnes, et exiger un don de soi de la personne, qui est légitime par certains côtés, mais qui ne peut pas être l'équivalent d'une relation à Dieu. Et au fond, on voit que l'État aurait bien voulu, a essayé et essaye encore quelque peu, de se revêtir de la légitimité religieuse, d'exiger le sacrifice de la personne. Je veux bien, en tant que citoyen, mourir pour ma patrie, mais je ne veux pas que l'on dise que j'y trouverai mon salut, que je m'y accomplirai dans la plénitude de mon humanité. Et si un jour on me sommet d'avoir à choisir entre l'obéissance à la République et ma foi, il est évident que je choisirai ma foi. Et donc à chaque fois que l'État somme quelqu'un de faire ce choix, au fond, il se comporte de manière violente.
Ça, on a au fond une double erreur, celle de la religion qui veut mobiliser la politique pour compléter ses adhérents, on veut dire, ou pour les conforter, ou ses militants, et inversement, une autre erreur qui serait celle de la politique à vouloir prétendre finalement se tenir sur le terrain même du salut, hein, pour parler de manière générale. Alors, et on a ces deux sphères, celle du politique et celle du religieux, qui ne se recouvrent pas parfaitement. C'est ça peut-être l'illusion théocratique, hein, c'est la prétention finalement de les faire se rejoindre, ce que Géraldine Mühlmann appelait une imposture, hein, mais en même temps, il y a bien lieu de penser un lien. Parce que on ne peut pas penser, c'est l'illusion que vous dénoncez aussi, une politique qui ramène le religieux à rien du tout et une religion qui ramène le politique à rien du tout. Alors, est-ce que la bonne manière de poser la question, c'est de se poser la question de la juste distance entre la religion ou la politique, ou est-ce qu'il faut se dire qu'il y aura toujours un retour du religieux comme il y en a aujourd'hui? Comment penser sérieusement la question?
Là, vous posez la question la plus difficile. Un croyant, légitimement, peut s'engager politiquement. Il peut s'engager politiquement dans des œuvres sociales, économiques, culturelles, politiques. Il peut prendre des engagements qui sont à droite ou à gauche, légitimement. Le danger pour lui comme croyant, c'est d'introduire les clivages politiques au sein de sa communauté. Car cette communauté a une autre finalité que d'être simplement un instrument de pouvoir, un lieu de pouvoir. Donc il faudrait qu'à l'intérieur de la communion chrétienne, de la communauté religieuse, on évite de penser en termes de pouvoir. Parce que dès qu'on pense en termes de pouvoir, au fond, la tentation est de prendre la place de Dieu. Et la République et tous les pouvoirs, quels qu'ils soient, s'arrogent des prérogatives divines, prétendent donner un sens à la vie, prétendent donner un devoir ultime, etc. Et donc, la question qui nous préoccupe, comme chrétiens, c'est vivre en Église, pour nous, nous rassembler le dimanche, prier ensemble, communier au même corps, cela dépasse tous les clivages. Mon voisin à l'Église a fait un autre choix politique que moi, mais devant l'Eucharistie, nous sommes frères.
Ce serait de même pour nous juifs d'aller à la synagogue au fond et avec des juifs de gauche ou des juifs de droite en pensant constituer un seul peuple d'Israël avec des différences qui sont parfois d'ailleurs des différences dans le rapport aux religieux. Est-ce que vous y retrouvez des questions tout à fait semblables? Et en demandant, au fond, à la synagogue de ne pas être le lieu comme la chambre d'écho d'une posture politique, quelle qu'elle soit, même si elle concerne le peuple lui-même.
Le chrétien que je suis ou que j'essaye d'être voit dans votre question, au fond, l'attitude de Jésus. Puisque, de son temps, il avait affaire à ces clivages politiques. Jésus a été condamné à cause de ses paroles contre le temple. Et ces paroles contre le temple, elles s'expliquent par le fait que ce temple était construit par Hérode, c'est-à-dire le collabo par rapport aux Romains occupants, et qu'on peut comprendre toute la prédication et l'action de Jésus comme cette volonté de reconduire à autre chose que l'instauration du politique. Les gens attendent de lui qu'il soit roi, et le jour où on veut lui donner le titre de roi, que fait-il? Il se dérobe et il part seul dans la montagne.
Alors, je ne pense pas que vous vouliez dire que le temple a été construit par Hérode, hein, puisque le temple a été construit vraiment...
Reconstruit.
Non, même pas reconstruit par Hérode. Le le temple a été reconstruit au VIe siècle, avant notre ère. Donc Hérode ne va pas le reconstruire d'aucune manière. Mais par contre, il soutient d'une certaine manière le pouvoir des Sadducéens. Et en ce sens-là, il soutient le pouvoir clérical, le pouvoir du temple, hein, et il tente de s'appuyer sur ce pouvoir. C'est pour ça qu'il y a une bonne entente finalement entre les Hérodiens et les Sadducéens, à la différence des Pharisiens qui eux, pour le coup, ont des distances avec Hérode, comme ils ont des distances avec les Sadducéens et essayent de penser une forme d'altérité justement entre le politique et le religieux. Et aujourd'hui, les juifs d'aujourd'hui, les juifs orthodoxes d'aujourd'hui, sont les héritiers de ces pharisiens. Ils ne sont pas les héritiers des sadducéens ou des hérodiens. Alors peut-être que la question à ce moment-là est de penser justement l'altérité entre le judaïsme, conçu comme pensée religieuse, et le politique. Pour nous aujourd'hui, le politique, c'est pas simplement la problématique de l'opposition droite-gauche dans chaque pays de la diaspora, mais c'est aussi la problématique d'Israël, au sens où pour les Juifs de France, le grand lieu politique, enfin un des grands lieux politiques, c'est Israël, c'est un des lieux essentiels. Donc comment en fait se constituer comme un peuple, en se reconnaissant comme un peuple au travers de ce que l'État d'Israël tente de défendre, c'est-à-dire l'existence de 8 millions de Juifs, en tout cas, dans une terre particulière, qui avec son histoire particulière, comment reconnaître à la fois ça et une distinction d'avec le religieux dans un peuple, vous voyez, qui est un peuple spécifique. C'est peut-être une différence avec le peuple, avec le monde chrétien. Parce que le monde chrétien, si j'ose dire, est par essence diasporique. Il ne se reconnaît pas au travers d'un pays déterminé. Il se reconnaît comme un peuple, mais dans un sens théologique, pas dans un sens charnel et politique. Les Juifs peuvent se reconnaître comme un peuple aussi dans un sens politique, pas dans le sens d'une orientation politicienne, mais dans un sens où il y a une solidarité entre des personnes qui ont à voir avec des intérêts communs, avec une filiation commune, avec même s'il y a des convertis parmi les Juifs, mais il y a aussi une filiation commune. Il y a quelque chose de, on va dire, de charnel, hein, qui est très mis à distance très fortement dans le christianisme. Donc comment, dans une reconnaissance, donc là on est plus proche de l'idée de nation au fond. Comment, dans la reconnaissance d'une nation commune, penser d'une nation commune qui se réfère à une religion de référence, comment penser dans cette nation commune l'altérité du politique et du religieux?
Là, on entre, on progresse parce qu'on entre dans des questions de plus en plus difficiles. D'abord, je vous remercie d'avoir corrigé ce que mon propos avait de rapide sur le temple. Et cela me fait penser que, pour l'instant, nous avons parlé du politique et du religieux. Il faudrait introduire un troisième personnage, qui est le prophète. Car le prophète, lui, au fond, est-ce qu'il est lié à une terre ? Moi, ce que j'admire dans la confession juive, c'est la fidélité permanente, constante, profonde, féconde d'un peuple qui, pendant 20 siècles, n'a pas eu de terre, et transportait avec lui sa loi, son amour de Dieu, et au fond, alors je vais dire quelque chose qui va évidemment provoquer des débats, mais après tout, le débat n'est pas forcément mauvais. Est-il nécessaire qu'il y ait une terre ? Puisque le prophète va cheminant dans le désert, Et l'existence du peuple juif a été prophétique pendant des siècles, porteuse de philosophie, de musique, de science, et d'une ferveur dont nous recevons beaucoup, sans avoir pour autant une identité politique au sens de l'arraisonnement d'une terre par un pouvoir.
Mais nous avons toujours vécu, nous juifs, cette distance avec la terre comme un problème, c'est-à-dire comme une insuffisance. Le fait de retrouver une terre est pour nous, et de la retrouver vraiment, est pour nous un appel à vivre de manière plus plénière le judaïsme de manière cohérente, c'est-à-dire de le vivre aussi au travers de lois, au travers de certaines pratiques d'ailleurs qui n'ont lieu que sur cette terre. Et c'est la raison pour laquelle même dans là nous ne sommes pas très loin de Pessah, et à la fin du CDR de Pessah, on se redit l'an prochain à Jérusalem, vraiment comme un appel. Et depuis 2000 ans, et même depuis les premiers exils, les Juifs se redisent cela. Quand Jésus, qui était à Jérusalem même pour célébrer son dernier céder, il a dit à la fin, certainement, l'an prochain, à Jérusalem, alors qu'il y était d'une certaine manière. Il y a l'idée, en tout cas je ne vous rejoins pas dans l'idée qu'il n'y aurait pas de terre, ou que l'absence de terre elle serait un bien pour le judaïsme, parce que le judaïsme appelle vraiment dans sa pratique à l'existence de cette terre. Mais par contre, je vous rejoins peut-être dans une idée qu'il y a dans la politique et dans la religion quelque chose qui relève de l'eschatologique. Et qu'il y a un appel à quelque chose qui est à espérer, c'est-à-dire au fond non pas une forme de reconnaissance mutuelle dans une altérité mutuelle, c'est-à-dire une vie selon la justice, et c'est ça que pour nous juifs nous appelons la vie messianique en fait. Hein.
L'espérance d'une terre se confond-elle avec l'édification d'un État ? Le peuple, au fond, le peuple juif est essentiellement, enfin moi je le comprends comme ça, et excusez-moi si je me trompe, mais est essentiellement nomade, mais au fond comme les chrétiens devraient se vivre en nomade. C'est-à-dire que je ne suis pas chrétien parce que français, parce que chrétien, ou alors lié à une nouvelle religiosité d'un État quelconque. Non, il me semble que, aussi bien comme chrétien que comme juif, on ne peut se vivre que comme nomade. C'est-à-dire que la terre est toujours promise. Elle n'est jamais le lieu où on va s'installer, et chaque fois que l'on s'installe, je pense, comme ça on quitte la problématique juive, je pense à ce monument extraordinaire mais au fond orgueilleux et qui est à la source de tous nos malheurs, qui est le Vatican. À chaque fois que l'on s'installe et qu'on croit qu'on a mis Dieu dans un lieu, eh bien, on rentre dans des processus de violence extrême. Et au fond, c'est peut-être la lutte de Caïn et d'Abel, celle de celui qui construit les villes et puis de celui qui suit son troupeau en pasteur. Et je crois que c'est une manière pas seulement symbolique de dire que celui qui est dans le creux de la main de Dieu, il est chez lui, sur toutes les terres, mais en même temps, jamais complètement. Et les travaux que nous avons collectés sous le titre de « Adieu à César », sont placés sous le signe de Diognète. Qui est Diognète ? C'est l'interlocuteur d'un texte assez célèbre, qu'on appelle le texte « Adiognète », qui date des ans de l'année 150 après Jésus-Christ environ, où on répond au nommé Diognète sur qu'est-ce que c'est qu'un chrétien. Et le rédacteur de cette lettre, dont on ne connaît pas le nom, dit, bon, les chrétiens n'ont pas de langue particulière, n'ont pas de vêtements particuliers, n'ont pas d'habitude alimentaire particulière, et ils sont partout comme sur une terre étrangère.
Mais est-ce que c'est précisément pas ça? Alors, je vous posais deux questions, mais qui feraient justement la différence entre les juifs et les chrétiens, d'une part. Et d'autre part, je vous pose une question qui est peut-être le fond, c'est... Pouvez-vous vraiment, de manière sérieuse, poser la question du rapport politique et religion quand vous avez une posture religieuse qui, en fait, vous désincarne ? C'est-à-dire vous déterritorialise entièrement. Et est-ce que vous pouvez, d'une manière juste, poser le problème du rapport au politique, parce que au fond le politique c'est la gestion de la terre aussi, c'est la gestion de l'espace, c'est la gestion d'un lieu dans lequel on reconnaît que sa vie, on va dire, s'enracine avec toutes les métaphores de l'homme plante comme les dénonçait Lévinas, qui sont un petit peu problématiques.
Non, je ne crois pas que ce soit une désincarnation, parce que l'incarnation c'est précisément celle de nos corps. Du corps des enfants qu'il faut recueillir, des malades qu'il faut soigner, des pauvres qu'il faut aider. Ces corps, on n'en regarde pas la couleur, on ne sait pas s'ils sont noirs, s'ils sont jaunes, s'ils sont vieux, s'ils sont jeunes, s'ils sont beaux, s'ils sont laids. La véritable incarnation, elle est là. Dans la charité, le soin, j'aime beaucoup ce mot de soin, apporter au corps, ça c'est la véritable incarnation. Il me semble qu'il y aurait une erreur, il y a une erreur si on assimile l'incarnation et la territorialisation. Je reviens à cela, la véritable existence d'un peuple, de Dieu, c'est d'être nomade, sinon les tentations idolâtres réapparaissent aussitôt on a entouré un lopin de terre d'une barrière.
Mais par exemple, alors nous arrivons à la fin de notre émission, malheureusement qui passe trop vite parce que nous aurions beaucoup à échanger. Mais c'est un des enjeux du judaïsme, par exemple, de faire ce lien. Et c'est très intéressant de voir dans les textes de la Torah que à partir du moment où en fait on localise Dieu, par exemple au travers de l'Arche d'Alliance, hein, et on le voit ça dans la manière dont l'Arche d'Alliance est revêtue par la gloire divine tout à la fin du livre de l'Exode. On voit que ce lien avec l'Arche d'Alliance s'accompagne des sacrifices. Et les sacrifices ont à voir avec la fin de l'idolâtrie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on sacrifie ? On sacrifie un agneau, on sacrifie des taureaux, on sacrifie en fait tous les animaux qui sont les animaux idolâtrés dans l'Égypte. Et donc, en fait, on renonce à l'idolâtrie précisément dès lors qu'on place un lieu. Et ce lieu, et nous place, enfin, être placé dans un lieu d'adoration, c'est aussi être obligé de sortir, enfin, d'entrer dans la problématique de ne pas assimiler Dieu à un lieu. Et tout dans le texte est fait pour nous faire prendre conscience de cette problématique. Et c'est peut-être finalement ça le paradoxe qui serait celui du rapport qui est... Il y a à penser le paradoxe permanent de ce rapport entre César et Dieu, entre la religion et la politique, comme une problématique spatiale. Alors, vous avez 10 secondes pour me répondre, Jean-Noël Dumont, avant que nous clôturions notre émission. Pour conclure, quelques mots de conclusion.
Quelques mots de conclusion sur ce que vous avez appelé la problématique spatiale. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les rapports politique-religion sont devenus conflictuels terriblement le jour où les États se sont mis à dessiner des frontières. Car le XVIe, XVIIe siècle, c'est l'apparition des frontières. Et il fallait que les populations soient homogènes et fidèles derrière chacune des barrières. Et c'est pour ça que les guerres de religion qui sont dues non pas aux religions, mais aux monarchies rivales qui voulaient mettre chacun dans un corral, se sont terminées par l'adage « cuius regio, eius religio », c'est-à-dire à chaque territoire, sa religion, c'est vraiment le sommet du paganisme.
Et c'est bien cela qu'il s'agirait de penser. Merci beaucoup Jean-Noël Dumont pour cet échange. Je rappelle le livre que vous avez co-dirigé avec Vincent Aubin, qui s'appelle « Adieu à César » aux éditions Peuple Libre. Et à tous, je souhaite une bonne semaine philosophique. Au revoir Jean-Noël Dumont.
Au revoir.
Étincelle, le lab philo de la pensée juive. Une émission animée par Pierre Abraham.